Bonjour. Peut-être est-ce lié à nos déplacements largement contraints depuis maintenant plus d'un an, ou peut-être est-ce notre envie de goûter des vins venus d'ailleurs. Peut-être est-ce le goût de l'aventure ou notre passion pour la science en général et la biologie en particulier. Ou peut-être est-ce la fraîcheur de ce projet inédit et l'enthousiasme de ses auteurs qui nous ont donné envie de rencontrer qui se cache derrière le doux nom de Red Wine, des élèves ingénieurs en agro qui partent à la rencontre des terroirs du monde entier avec une idée en tête, accompagner la viticulture dans sa transition vers une agriculture plus vertueuse. Ce 77e épisode s'intitule « Red Wine, les ingénieurs explorateurs ». Bienvenue dans la Terre à boire. Et on retrouve en studio Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Bertrand de la Grosse Bouffe, qui a d'ailleurs la bouche pleine.
Bonjour.
Bonjour. Bertrand de la Grosse Bouffe, ça fait un peu noble, tu sais. Le baron
Bertrand de la Grosse Bouffe.
C'est
ouais, j'aime bien.
C'est pas mal.
Continue à m'appeler comme ça.
Écoute, quand il y est. Laurent Delceau est là aussi. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Il a aussi la bouche pleine. Il faut dire qu'on a fait une petite pause en cas entre deux émissions. Et on accueille également deux invités, cette fois en studio. Peut-être que ce sera plus facile de placer un mot qu'avec Jacques Rigaud qui était au téléphone. Bonjour Isor Cellier.
Bonjour.
Même si je te vois à travers une forêt de micros et c'est compliqué. Tu es une des participantes au projet Red Wine pour 2021. Vous partez en Méditerranée et tu vas nous raconter tout ça. Et nous avons aussi Vincent Couli. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et toi, tu es un des fondateurs donc, de Red Wine. Alors, Red Wine, ça s'écrit R-A-I-D, évidemment. D'où le côté aventure, exploration, Indiana Jones. Et tu es un des fondateurs de cette aventure et tu as été logiquement de la première expédition en 2018
En 2019, le départ.
2019, et qui est elle, en Amérique du Sud, c'est ça?
Exactement.
Voilà, alors merci d'être là. On est ravis de parler de votre projet qui est une idée originale. Laurent, c'est toi qui nous a apporté cette idée d'émission sur la table. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet Red Wine?
Bah, plein de choses, en fait. La jeunesse, l'enthousiasme, le voyage, enfin tu l'as cité dans ton intro, c'est un petit peu tous ces éléments-là qui m'ont séduit. Je crois que c'est arrivé par Instagram,
je crois
que
je vous ai trouvé, je vous ai vu
sur Instagram, et j'ai commencé à vous suivre et le projet me parlait. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais adoré faire moi quand j'avais votre âge, comme un vieux je parle là, c'est horrible. mais vraiment le projet qui correspond un petit peu aussi à ce qui résonne en moi sur le vin, le côté diversité, les enjeux climatiques, toutes ces choses dont on parle régulièrement quand même dans la Terre à boire. Je me suis dit, ça peut faire un super sujet. et puis en discutant d'abord avec Isor, je me suis dit que oui, ça devait pouvoir plaire à nos auditeurs de découvrir ça. Et je suis moi très curieux de voir tout ce que vous aurez produit aussi après ces missions, puisque bon, c'est un peu des missions que vous menez. Maintenant, on va être sur la troisième année. Donc, pour resituer Isor, donc, tu le disais, et sur
l'année 2021.
Le millésime 2021. Donc, elle va nous parler un petit peu de ce qu'ils envisagent de faire. Et Vincent, lui, il va nous expliquer peut-être en premier comment il a eu l'idée de monter ça. Et puis, en plus, il a participé donc à la première expédition. Et c'était en plus loin, c'était en Amérique latine.
Vincent, c'est quoi l'idée au départ de Red Wine?
Alors, l'idée,
comment est-elle venue?
Ça part, donc j'étais avec un de mes copains de promo qui s'appelle Louis Brac, et on avait envie, donc
vous étiez étudiant
à AgroParisTech. Et
pendant une
année de césure,
d'ingénieur
sciences de la vie, de la terre, de l'environnement, voilà. Plus que de l'agronomie aujourd'hui, c'est beaucoup plus large.
On précise que toi, tu es d'une famille de vignerons, et depuis, maintenant que tu es diplômé, tu es vigneron toi-même, en famille, avec ton père.
Exactement. Et Louis, avec qui on a démarré, est à l'opposé, pas du tout d'une famille de vignerons, et pas du tout de la campagne, il est de Paris, donc on est vraiment un peu les deux opposés à la base.
Rats des villes et rats des champs.
C'est un peu ça, mais tous les deux, on était animés par la passion du vin, et on voulait partir en année de césure à l'aventure, et on peut s'ouvrir les horizons, découvrir d'autres choses, et on s'est dit quitte à le faire, autant le faire avec un projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Et le thème actuel dont on parle chez nous, dans notre école, et dans tous les gens, maintenant aujourd'hui, on va dire dans le monde entier, c'est le changement climatique. Et on s'est dit comment s'intéresser au changement climatique, et surtout comment faire en sorte que des gens qui ne s'y intéressent pas s'y intéressent. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pensé au monde du vin, où beaucoup, beaucoup de gens sont très intéressés par le monde du vin. Et via ce prisme-là, on pouvait peut-être faire en sorte de montrer aux gens que oui, le changement climatique, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Qu'il y a déjà des choses qu'on voit, qu'on subit et qu'on ressent directement jusque dans le verre. Et donc on s'est dit, on va mener ces deux thèmes pour essayer de parler du monde du vin et du changement climatique et d'amener un peu les gens qui aiment le vin au changement climatique et les gens qui aiment le changement climatique au... enfin, qui sont passionnés par ça et qui travaillent et qui, voilà, au monde du vin.
Au niveau de l'école d'ingénieur, du coup, vous avez, c'est un projet que vous avez proposé à vos enseignants, vous avez financé en cherchant l'appui de l'université. Comment ça s'est passé concrètement ensuite ?
Alors, il faut savoir que dans notre école AgroParisTech, on peut faire une année de césure, donc c'est-à-dire qu'entre le M1 et le M2, donc entre l'avant-dernière année et la dernière année, on peut partir une année, faire un peu ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut, c'est-à-dire tant que ça a un rapport avec le projet qu'on a. Donc, nous, notre projet professionnel, c'était donc moi travailler dans le vin, Louis dans l'environnement. Et donc, du coup, on a proposé à l'école un projet qui, elle, a accepté, qui était le projet Red Wine. Et donc, elle nous soutient forcément, elle nous a soutenu déjà d'un point de vue logistique, elle nous a donné l'année, on est resté étudiant, donc tous les avantages que ça a d'être étudiant. Donc, ça, on est resté étudiant pendant toute cette année. Et ensuite, on a la fondation de l'école qui peut nous aider financièrement. Et puis même, rien que d'avoir le soutien d'une école, même juste sur le papier, ça permet déjà plus facilement d'aller chercher des financements pour financer tout ça. Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de pouvoir faire une retranscription de notre voyage où on allait interroger des chercheurs, des vignerons, des sommeliers, œnologues, un peu toute la filière du vin sur ce sujet-là du changement climatique, le retranscrire par un film. Et c'est ce projet-là qu'on a, entre guillemets, vendu à l'école et qui a accepté de nous laisser partir pour ce voyage.
Vous aviez une troisième comparse dans le groupe. Et alors, quel était son positionnement, elle, dans l'équipe ?
Alors, l'idée, ça venait d'abord de Louis et moi, sauf qu'on voulait, pour un tel projet, on ne voulait pas partir tout seul, parce que ça faisait beaucoup de travail. Donc, on a demandé à Adèle Baumier de venir nous rejoindre, qui est aussi d'AgroParisTech. Donc, on est parti avec elle. Elle ne pouvait qu'une partie du voyage, donc on a fait le début avec elle. Et en cours de chemin, on a rencontré une quatrième personne, Sybille, qui, elle, était déjà sur le continent sud-américain, qui est étudiante en commerce à Paris, et qui a rejoint le projet en cours de route, parce que ça lui plaisait, et voilà. Et donc, nous, le but du jeu, c'était pas, voilà, d'avoir un projet que pour nous, c'était vraiment les gens qui voulaient participer et nous aider. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de main d'œuvre, parce que faire un film, mine de rien, c'est beaucoup de boulot.
Je cite, je vois sur le site de Red Wine, j'invite chacun et chacune à aller le voir parce qu'il est assez bien fait, on comprend, on a pas mal d'infos sur le projet. Vous avez d'autres partenaires, donc AgroParisTech, l'INRA, mais aussi la Fondation pour la Nature et l'Homme, la Fondation Nicolas Hulot, et en termes de médias, Le Point, qui vous suit et qui a d'ailleurs publié plusieurs articles sur le projet. Donc ça a été aussi votre travail au début de mettre tout ça sur pied.
Ça a été le gros travail parce qu'au début, on partait de rien. On n'avait aucun antécédent. Donc, ça a été comment on trouve de la visibilité pour qu'on puisse avoir un peu de financement. On ne parle pas juste du voyage qui a un coût, mais ça qu'on pourrait tenir, c'est acheter le matériel vidéo, financer le monteur. Donc, ça a un vrai coût. Et du coup, c'était un gros, gros travail au début. Donc, les fondations des écoles nous ont aidés. On a d'autres fondations, la Fondation Terroir et Paysage. Donc, ça, c'était un gros travail. Et après, Le Point, c'était une idée de Louis. Comment on fait pour qu'on puisse avoir plus de visibilité que les réseaux sociaux ? C'est bien les réseaux sociaux, mais il y a des médias traditionnels et il faut aussi s'en servir. Donc on a fait un partenariat avec Le Point et nous on a sorti, sur nos 6 mois de voyage, on a réussi à sortir 4 articles.
Isor, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce projet ? T'as vu ça pendant que t'étais étudiante et tu t'es dit « moi j'aime le vin, je fonce, c'est les personnes, c'est la perspective du voyage ».
Alors moi je viens pas du tout du monde viticole, ni de la campagne, quoi que ce soit, je suis de la région parisienne donc rien à voir, exactement. Plutôt comme Louis. Je les ai un peu suivis. En fait, on a 2 promos d'écart. Donc moi, j'étais en première année quand eux étaient en année de césure sur le départ. Et donc, je les ai un peu suivis sur les réseaux sociaux. J'avais fait un stage ouvrier dans un domaine viticole qui m'avait beaucoup plu, mais sans me dire que j'allais tomber dans ce monde. Et donc après, pendant le premier confinement, j'ai eu un peu une réflexion de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma césure et même de ma vie. Et en fait, je me suis dit, du jour au lendemain, la réponse, elle est devant moi. Red Wine, je fais ce projet-là, je fais une vinification avant, des stages, et puis ça pourra faire quelque chose de sympa. Et au final, je suis tombée dedans, le nez dans la marmite, on va dire, et voilà.
Donc là, pour le début de ton année de césure, tu dis que tu as fait une vinification et en ce moment, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, et là, je suis partie, il me reste 4 jours de taille dans de la vigne à Vouvray, un vrai plaisir.
Fais voir tes mains.
Non, ça va, ça va, elles sont un peu prépotables, elles sont un peu plus bronzées que la partie du corps, mais un peu abîmées.
Alors, cette expérience d'être là dans la vigne?
Bah, très sympa, très reposant, un peu surprenant parce que je savais pas à quoi m'attendre et surtout que j'étais pas au début partie pour la production parce que je suis pas du tout de ce monde-là, donc je me suis dit je m'embarque dans un monde que je connais pas, dans lequel où voilà je suis aussi une femme, enfin il y a tout plein de questions qui peuvent se poser et en fait au fur et à mesure la première vinification ça a été la découverte de me dire ok je veux partir dans ce monde-là et puis au final la taille ça a été le déclenchement de me dire je veux faire de la production et donc au final Red Wine boucle cette césure ou bouclera en tout cas cette césure plutôt bien avec une grande ouverture d'esprit on espère et beaucoup de découvertes à la suite parce que c'est vrai que pour nous en tant que futurs ingénieurs agronomes en fait nous en 2021 on est aussi 3 étudiants ingénieurs agronomes d'AgroParisTech et de Montpellier Supagro. Donc il y a aussi une volonté personnelle de nous, plus tard en tant que futurs professionnels de ce secteur-là, de se dire tiens, on a assez d'ouverture pour penser à l'avenir de cette filière et avoir un apport personnel. Très fort.
Ça m'évoque deux questions, en fait, liées. D'abord, est-ce que le monde du vin est un élément qui est intéressant pour beaucoup d'étudiants d'une filière comme la vôtre? Et l'autre question, c'est à l'intérieur de cette approche, est-ce que ces questions environnementales sont vraiment très présentes dans l'esprit des... Parce que l'agro, nous on en parle quand même suffisamment ici, traîne derrière elle, l'ingénierie agroalimentaire a quand même une réputation d'avoir dans les années 70, 80, 90, arrosé les sols de chimie, fait exploser les rendements mais au prix d'une détérioration de l'environnement. Est-ce que ça crée du conflit avec des... Est-ce que l'enseignement a évolué? Alors j'ai plein de questions en fait, pardon, mais est-ce que ça crée...
Tu vas t'arrêter maintenant parce
qu'il y a une révolution dans ce... Qu'est-ce que c'est que d'être étudiant dans cette filière-là qui traîne ce genre de casserole et qui est face à des défis aussi grands que celui du réchauffement climatique, celui de la richesse des sols, etc. Pardon, il y a trop de questions dans ma question, mais vous avez compris mon idée.
Tu veux répondre?
Alors déjà, on est ingénieur agronome. Et l'école, comme j'ai dit, c'est les sciences de la vie, de l'environnement, de la terre. Donc ça prend plein de choses. Il y a 4 grands domaines, en fait. C'est l'agronomie. Donc l'agronomie, c'est uniquement l'agriculture, on peut dire. Alors l'agroalimentaire, mais l'agroalimentaire, c'est très vaste. Hein. Le monde du vin fait partie du monde de l'agroalimentaire.
Bien sûr,
c'est la transformation, l'environnement, et on voit aussi une partie santé. Ça, aujourd'hui, c'est l'école, comment elle est structurée. Ça fait quand même, je pense, des années que l'école travaille sur tous ces sujets-là. Tous les professeurs qu'on a, chercheurs, ont travaillé sur toutes ces thématiques d'environnement. C'est hyper présent. On a quand même la chance d'être dans une école où notre directeur ne nous a pas non plus appelé à la grève pour le climat, mais nous a conforté dans les mouvements qui venaient des étudiants et dont AgroParisTech était une des écoles signataires à la base du manifeste étudiant sur l'environnement. Donc on est quand même très concentré sur ces idées-là. Après, ce qu'il faut pas mettre en... Voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est aussi formé sur produire. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments en tête, à la fois qu'est-ce que c'est se mettre dans la tête du mec qui va produire, qui est l'agriculteur et qui a des effets économiques, qui doit vivre.
Bien sûr.
Et également d'un point de vue plus global. Et ça, c'est vraiment une des qualités de la formation, je pense. C'est d'avoir à la fois le côté très systémique, global, comment fonctionne un système, un écosystème, une région, mais également se mettre dans la peau du mec qui doit gagner sa vie et manger à la fin de la journée. Alors évidemment, ça fait partie de notre formation d'apprendre à gérer les pesticides, savoir comment ils sont faits, comment ils sont polluants ou pas, à quel niveau, etc. Mais voilà, il y a bien plus que ça, c'est une toute petite partie. L'agronomie et le changement climatique, ça concerne le travail du sol, ça concerne la biodiversité, ça concerne le transport, l'économie, ça va concerner les exportations, les importations. Enfin, c'est bien plus complexe que ça. On a tendance, d'ailleurs, ce qui peut être un peu un... Dommage parfois pour le changement climatique à se concentrer sur les pesticides, souvent sur 2-3, voilà, le glyphosate, souvent on dit, mais c'est une part infime de ce qu'est la pollution, même juste agricole, sans parler du reste. C'est une part infime du changement climatique et des conséquences. Et d'ailleurs, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt et on oublie tout le reste qu'il y a derrière. Et c'est la chance de cette formation, je pense qu'Isor sera assez d'accord, d'avoir une vision globale. Après, sur la question de la filière vin, c'est qu'une filière parmi tant d'autres. C'est-à-dire que pour nous, la filière vin, c'est la même chose que la filière lait, la même chose que la filière céréalière, que la filière élevage, voilà. Et dans l'école, il y en a ceux qui font de l'agronomie, parce que ceux qui font de l'agronomie, c'est qu'une partie des élèves. Hein. Il y en a qui font une partie vin, il y en a qui... Voilà. Toutes les filières sont représentées et pour nous, ont toutes la même importance.
Ok. Bon, on va parler maintenant des projets, peut-être de la première expédition, parce qu'il y a des vins qui sont associés et certains sont sur la table. Et puis, on parlera ensuite peut-être de cette aventure que tu t'apprêtes à vivre, toi, Isor, en Méditerranée. Tu vas nous parler de ce projet-là. Patrice, Bertrand, vous avez peut-être des questions?
Non, mais j'écoutais simplement ça. Après, c'est une question de philosophie. C'est après comment l'agronomie connecte avec le monde vivant. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la notion d'exploitant agricole versus accompagner le vivant. Donc je pense que le cœur de l'agronomie et d'AgroParisTech en particulier, le point de césure, il est là, en y rajoutant effectivement la dimension économique que peut-être que nous, philosophiquement, c'est facile à dire.
Hein, c'est facile à écarter.
Mais c'est facile à dire, de dire ah bah oui, mais il faut pas traiter, il faut faire en biodynamique, etc. Sauf que le jour où tu as de la pollution, où tu as, tu es bien obligé de mettre quelque chose pour sortir ta production et survivre. Voilà. Donc philosophiquement, c'est facile à dire, c'est plus facile derrière un micro. Mais effectivement, je pense que c'est une question de philosophie. Mais bon, voilà, donc c'est juste pour dire que je pense que AgroParisTech est au cœur de ça, la philosophie, c'est dans quelle mesure on connecte avec le vivant, où on est exploitant d'une terre qui est extérieure à nous. Donc est-ce qu'on est part d'un écosystème ou est-ce qu'on applique des méthodes, on va dire, cartésiennes sur cet écosystème?
Juste pour refaire écho à ça, on peut juste reprendre la définition du développement durable. Il y a le développement environnemental, social, économique. Il doit être économiquement acceptable pour tout le monde, socialement acceptable et même positif, c'est quand même le but. Et environnementalement, on doit protéger. Et on a tendance aujourd'hui à oublier le côté social et environnemental. Voilà, faut pas oublier que le but du jeu, c'est quand même que les gens qui produisent sur la terre, ils puissent partir en vacances, ce qui aujourd'hui est quand même très rare.
Alors, la première expédition Red Wine, vous étiez donc trois, tu nous l'as dit, vous avez rejoint, une quatrième vous a rejoint sur la route. Quels sont les pays que vous avez visités?
Alors, on a commencé par l'Argentine, après on a fait toute une boucle, l'Argentine, Chili, Bolivie, et on a fini en Uruguay.
Et quelle était l'idée de départ? Donc, tu l'as dit, réchauffement climatique, comment la viticulture s'adapte, mais concrètement, comment ça se traduit sur le terrain?
Alors, l'idée de départ, c'était pas de voir uniquement le côté scientifique, parce que le côté scientifique pur, alors il est très important, mais on va pas l'étudier. Il y a des chercheurs qui font ça, ils font des thèses, voire leur carrière entière dessus. Nous, c'était de voir quelle était l'acceptation sociale et quelle était l'image du changement climatique auprès de la filière. Et en quoi les valeurs, la prise de conscience, et en quoi les valeurs scientifiques réelles qui sont établies, où tout le monde s'accorde, sont plus ou moins perçues, bonifiquement, moins bien, voilà. C'était vraiment ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé tout simplement frapper à la porte de domaines, de caves, de bars à vin, de grosses exploitations. On a fait la plus grosse d'Amérique du Sud, Conchay Touro. On est allé dans leur bureau, ils ont une tour gigantesque, un peu comme à La Défense, à Paris. Comme on est allé voir des producteurs qui avaient même pas un hectare. Voilà, donc on a vraiment fait l'ensemble de la filière, les gros, les petits, des négociants, voilà, pour voir un peu l'état du changement climatique d'un point de vue social, économique et environnemental.
Si j'ai bien compris, il y avait aussi une envie de voir ce qui se pratique ailleurs pour éventuellement le partager avec des exploitants français. Est-ce que justement vous avez identifié des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé ou vous vous êtes dit, tiens, ça peut, on fait pas ça en France, est-ce que ça serait pas mal de le
faire? Alors, c'est là où on va se rejoindre avec l'INRA et notre partenaire avec l'INRA. L'INRA a pour but de créer une plateforme où ils vont avoir en fait un partage de données, de connaissances entre producteurs et de pouvoir s'échanger des infos un peu aussi non scientifiques, juste d'infos pratiques, donc un peu cette condition-là. Et nous, on va aider à, pourquoi pas, la remplir. Et on a eu quelques petits exemples, je peux en donner un, par exemple, sur une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui en France, l'irrigation. On irrigue, on n'irrigue pas. Et aujourd'hui en Amérique du Sud, il faut savoir que la quasi-totalité des vignobles d'Amérique du Sud sont irrigués depuis déjà des années, des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ils se posent la question d'arrêter l'irrigation, parce qu'ils n'ont plus assez d'eau. Et donc ça, c'est assez marrant de se dire que de l'autre bout du monde, ils parlent d'y arrêter l'irrigation, alors que nous, on commence à se dire, est-ce qu'on va y venir? Donc est-ce qu'on sauterait pas à l'étape de l'irrigation pour passer directement à leur étape et se servir de leur expérience de 50 ans d'irrigation pour arriver aux solutions qu'ils proposent? Ils proposent de réelles solutions sur comment on arrête l'irrigation, c'est pas je coupe le...
Alors, ça m'intéresse du coup.
Et c'est déjà revoir les programmes de plantation, parce que comment on plante? Quelle est la façon de planter? Comment on prépare les sols avant de planter? Quand on plante, même en France aujourd'hui, on irrigue. Quand on plante les 2-3 premières années, surtout dans le sud de la France, on va aider un peu l'irrigation. Mais comment on gère ce problème d'irrigation pour que la vigne aille en profondeur? Sur quel terrain on plante? Peut-être réduire les surfaces et prendre que les bons terrains où il y a une bonne réserve utile, où on va avoir une nappe pas trop loin, où la vigne va pouvoir avoir de la fraîcheur. Donc on peut penser notamment les terroirs calcaires, en France, on en a énormément. On a cette physiologie-là de pouvoir capter l'eau par capillarité, la faire remonter, avoir moins de stress. Tout ça, ça s'étudie vraiment en amont. On a des gens qui vont aller jusqu'à une étude fine du terroir et qui vont planter les parcelles en forme par rapport au sol. On va plus faire des parcelles carrées et dire ça c'est le clos machin et c'est le lieu dit bidule. Eux ils vont dire voilà, les clos et les lieux dits ils se superposent, ok très bien. Par contre le sol, la découpure, ça va ressembler à un zigzag, à un dessin d'enfant de 3 ans dans tous les sens. Et ils vont planter la parcelle comme ça pour pouvoir mieux la gérer et à côté ils vont pas planter par exemple. Voilà. Ils vont gérer ils ont une façon très différente de gérer ce problème de l'irrigation et de se dire voilà, comment on arrive à la diminuer et à ne plus en faire. L'état est différent.
Sauf erreur de ma part, mais sans être expert, je vais vous laisser la place, mais il y a deux conséquences potentiellement négatives sur l'irrigation. C'est que, c'est pas moi qui dis ça, c'est plutôt les bourguignons, les bourguignons au sens Claude et Lydia, bourguignons qui disent que ça entraîne une salification des sols. La première chose. Et deuxièmement, ça peut entraîner...
Salification.
Ça peut entraîner, sur certaines conditions, une concentration des sols de sel. Et donc, ça acidifie globalement le sol. Bon, voilà. Et deuxièmement, ça peut aussi, par rapport à l'équilibre de la plante, mais après, c'est des questions de dosage, faire en sorte que la plante, justement, le raisin a beaucoup d'eau et moins de tanin. Et donc, déconcentre, on va dire. Voilà. Donc, alors, c'est très général et c'est un peu facile de balancer ça comme dans un pavé dans la mare. Mais même l'irrigation doit suivre un certain nombre de règles très particulières pour être optimum dans son... Et c'est pas la panacée, c'est pas la solution absolue.
La preuve en est, s'ils reviennent en arrière, c'est bien
Oui, mais tout à fait. Mais enfin, même ceux qui réfléchissent en France, faut pas oublier que ça entraîne souvent une acidification des sols et ça dilue le vin. Donc, bon, voilà, simplement.
On a du mal à se dire que irriguer les vignes soit une bonne solution quand même. Hein. Je veux pas parler
ça dépend
trop vite, mais
ça dépend où, comment, d'accord. Pourquoi.
Le choix des cépages aussi intéressant.
Le choix des cépages, c'est quelque chose. Il faut savoir que eux, ils ont pas d'histoire là-bas de la vigne. L'histoire, ça commence par les conquistadors. L'histoire du vin, ils ont une histoire antérieure, mais sur le vin, ça commence aux conquistadors. Donc, ils ont pas de cépages endémiques. Ils ont que des cépages européens. Donc, eux, cette question de cépage, ils vont pas se dire, on va retrouver les vieux cépages, Ils ne sont pas sur le travail qu'on fait en France. Donc les cépages,
Quand je dis la question des cépages, ça peut être une question technologique, justement, d'aller chercher des cépages qui sont moins gourmands en eau, qui concentrent...
On peut avoir ça, mais justement, ça va dépendre, c'est toujours la même question, où, pourquoi, comment, donc c'est vraiment une adaptation beaucoup plus fine de ce qu'ils ont pu faire et de ce qu'on doit faire, en fait. Si on adapte très finement, ça marche très très bien. Et on peut irriguer, moi je me souviendrai toujours d'un vigneron que j'ai vu en France, dans le sud de la France, qui m'a dit « je ne veux surtout pas irriguer au goutte à goutte ». Parce que le problème du goutte à goutte, c'est que mes vignes, elles vont avoir des racines superficielles et dès que je vais avoir une forte chaleur, elles vont être beaucoup plus sensibles. Par contre, nous, il y a encore, il me disait, moi, mon père, il y avait deux orages, on est dans le midi, deux orages, en juillet et en août, 20 mm à chaque fois, et la vigne, on faisait des super vendanges. Il dit, pourquoi on ne mimerait pas ces deux orages avec un canon style maïs, juste deux fois, une fois en juillet, une fois en août. Et s'il pleut, il y a un orage dans l'été, et ben on enlève l'irrigation. Là, c'est une réflexion. Je ne suis pas allé dans le scientifique, j'ai pas eu le temps d'aller regarder si c'était vrai ce qu'il disait ou pas, mais. C'est ce style de réflexion-là qu'il faut avoir et de se dire, voilà, le pourquoi je le fais, où je le fais, sur quelle parcelle. Et il le disait, je ne vais pas le faire sur toutes mes parcelles à tous les moments. Ça va dépendre si on est dans un bas-fond, dans un haut, etc.
Il y a l'endroit de la plantation, mais il y a aussi peut-être les méthodes culturales qui peuvent changer. Enfin, quel type de méthodes ils ont mis en place pour éviter cette irrigation, justement ?
Il y a le travail du sol, mais ça, il y a un vaste débat. Jamais tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, chacun va tester ses choses dessus. On va avoir...
Le type de taille ou le paillage.
On va avoir des types de taille. On peut avoir le retour à la taille en pergola, par exemple, qui est une vieille taille qu'on a de moins en moins, qu'on a beaucoup dans les raisins de table. Beaucoup moins en France, en tout cas, quasiment pas en France. Donc, voilà.
Pergola, c'est vraiment le feuillage qui abrite les grappes.
Quand t'es assis sur la terrasse,
exactement.
Tu vois, rosé, tu vois.
La taille en pergola, et ce qui est marrant, c'est que la taille en pergola, c'est compatible avec des moutons en dessous toute l'année, par exemple. Voilà, il y a plein de choses, donc on n'a pas besoin de gérer l'enherbement, pas besoin de faire de travail. Donc il y a plein de choses comme ça à travailler, ils reviennent, voilà. Souvent, les méthodes, on les a, il faut les tester, et par contre, il faut les tester surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien de dire, ok, c'est très bien, je vais tailler en pergola, ça va faire moins d'évaporation de l'eau, du sol, moins d'évaporation sur la vigne, c'est génial. Sauf que ça va changer mon profil aromatique, ça va changer la façon de faire. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des bons vins ?
La mécanisation, j'imagine.
La mécanisation.
Mécaniser une pergola, ça doit être coton. Donc après, c'est une question d'optimisme, c'est la
tentation
de chercher l'optimal sur l'ensemble des paramètres.
Et d'où notre volonté de travailler aussi avec l'INRA sur cette plateforme, c'est de pouvoir dire, voilà, mettre les expériences de chacun dessus en mode, moi j'ai essayé la pergola, j'ai réussi sur ça et ça, j'ai loupé sur ça et ça. Et le suivant, il va servir de cette expérience pour lui-même essayer, rajouter une irrigation ou pas d'irrigation, rajouter un travail du sol ou pas. Et chacun va se construire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vigneron est à même de savoir quelle est la meilleure solution sur son terroir.
On renvoie sur le site à la partie documentation qui est voilà, assez intéressante, où on trouve les rapports et les vidéos. On va peut-être parler de vin et des vins qu'on a...
On peut éventuellement parler de vin. Devant nous. On a deux verres remplis.
Deux vins rouges.
Partiellement remplis.
Allez-y.
Message.
Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on doit les goûter ? Est-ce qu'on... Pourquoi deux vins en même
plus,
temps ?
J'ose plus, après la dégustation géosensorielle, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Non, je vous en prie, on va commencer. Alors en fait, c'est Vincent qui a orchestré la dégustation, donc c'est peut-être lui qui va nous en parler aussi. On est sur deux Malbecs, hein, on a voulu honorer le territoire argentin.
C'est ce cépage qu'on appelle aussi le Caux par ici, non ?
Oui, ou l'Auxerrois.
Ou l'Auxerrois, voilà. Ça me rappelle de vieilles émissions.
Oui, exactement. Et donc, l'idée, quand on en a discuté avec Vincent, c'était de se dire, l'Argentine a une multitude de terroirs et joue beaucoup sur l'altitude, notamment, hein, puisqu'on est, on est sur les contreforts ou sur les plateaux andins. Et donc, les profils aromatiques et les profils de vin, tout simplement, de Malbec, argentins peuvent être très variés. Donc là, on a réussi à trouver, parce que c'est pas très facile à Paris, hein, bizarrement, de trouver des vins argentins. En tout cas, on a eu un petit peu de mal. Sur la période, ouais, exactement. Mais bon, de toute façon, on n'est pas très ouvert sur les vins étrangers.
Deux vins argentins,
deux Malbec, de deux régions différentes, avec donc des cultures sur des altitudes très différentes. Donc là, je laisse Vincent prendre le relais sur son expérience à lui sur le terrain, parce que c'est plus intéressant que ce que je peux vous dire, moi.
Alors, les deux Malbec viennent de la région de Mendoza. Donc, Mendoza, hein, c'est la région Mendoza, c'est l'équivalent d'une région viticole pour nous, hein, l'équivalent du Val-de-Loire ou de la Bourgogne. Et on va avoir deux altitudes différentes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les vins de Mendoza vont de plus en plus en altitude, mais c'est le cas dans toute l'Amérique latine, au Chili, tous les pays. Pour une bonne raison, c'est que ça va être une conséquence du changement climatique. Donc Mendoza, on a une altitude déjà de base, la ville de Mendoza autour de 950-970 mètres, et la plupart des vins de Mendoza capitale, donc la ville de Mendoza, vont être autour de la ville de Lurán de Cuyo, et on est sur cette altitude-là. Donc là, c'est le vert qu'on va voir sur la gauche. Et ça va être le Malbec le plus connu, c'est ce qu'il y a eu le plus au niveau de Mendoza. Et aujourd'hui, ils vont dans les contreforts andins, et ils vont sur des terroirs un petit peu plus loin, des régions un peu plus éloignées, vers Bajé de Uco, vers Gualtajari, qui sont à des altitudes plus élevées. On va monter à 1200, 1300, 1400, voire 1600 mètres. Et donc là, le vert de droite, c'est qu'il y a un vin de Bajé de Uco, qui est donc la région juste au sud de Mendoza, qui va monter à 1200, 1300 mètres d'altitude. Et on va voir tout de suite qu'on va gagner en fraîcheur, plus d'acidité, en montant d'altitude, qu'on va gagner en concentration. Comme on est plus proche en fait, du soleil, on va avoir une peau plus épaisse, donc plus de concentration, des vins plus concentrés, des arômes un petit peu plus mûrs, un petit peu plus cuits. Donc ça permet aussi de rééquilibrer les deux maturités, la maturité phénolique et la maturité technologique. Donc en montant en altitude, il rééquilibre ces maturités, donc une meilleure, on va dire, meilleurs arômes, meilleurs tanins, et ils vont gagner en altitude. Et c'est pour ça qu'ils plantent de plus en plus en altitude. Aujourd'hui, le vignoble le plus haut au monde, qui est en Argentine, je crois qu'il a été dépassé maintenant dans l'Himalaya, ils sont montés jusqu'à 3000 mètres. Ce qui, il y a 50 ans, n'était même pas envisageable. Ils étaient à 1000 mètres.
Les seuls mecs qui peuvent vendanger, c'est les Sherpas. Parce qu'après, les autres, ils tombent d'inanition au bout d'un petit moment.
Avec des bouteilles d'oxygène.
Alors, juste une question. Qu'est-ce que tu appelles la maturité technologique ?
Oui, j'avais la même.
Alors, la maturité technologique, c'est simplement la maturité d'un fruit sucre-acide.
D'accord, ok.
Donc voilà. C'est d'avoir le bon rapport sucre-acide.
On sent l'appellation. On sent le côté agro, là.
Ça, c'est la maturité. Voilà. Donc, vous avez le sucre qu'il vous faut pour faire de l'alcool, la bonne acidité, vous récoltez. La maturité phénolique, ça va être tout ce qui va être les arômes, les tanins. Ça, c'est le goût et c'est très subjectif. Et le changement climatique fait que les deux maturités se décalent. Et bah, le problème, c'est qu'il faut en choisir une par rapport à l'autre. Et ils compensent ça en montant d'altitude.
Parce que la vigne, justement, débourre, donc c'est-à-dire se réveille de plus en plus tôt. Et donc, la période où la maturité phénolique apparaît est à une période qui, classiquement, est plutôt en septembre, enfin pour l'hémisphère nord en tout cas. Et là, elle se retrouve mi-août et du coup, il fait beaucoup trop chaud, c'est ça ?
Exactement, du coup, il y avait plus de sucre donc, et moins d'acidité. Voilà. C'est exactement ça.
Qu'est-ce que vous dites de ces vins ?
C'est super de pouvoir comparer parce que là, pour le coup, déjà, c'est rare de pouvoir comparer en général. Mais là... Là, avec juste un facteur altitude qui change, c'est intéressant parce que autant le premier donc, est plus bas, on a bon, le côté épicé du Malbec, on a la structure, mais on a aussi cette sucrosité qui est assez, qui est sensible en tout cas, qui souvent a été un peu la patte de ce qu'on disait un peu péjorativement, de les vins du Nouveau Monde, ils sont tous tout doux, tout fort en alcool, assez riches, etc. Et puis un peu flatteurs pour le palais. Ça n'engage que moi. Et cette sucrosité, on ne l'a pas du tout sur le deuxième. C'est-à-dire qu'on est plus sur des tanins peut-être un petit peu plus rugueux, mais on n'a pas ce côté douceâtre qu'on a sur le premier.
Juste une question quand même, parce qu'on n'a pas parlé du sol, mais bon, je pense que le sol influe. On n'a parlé que d'altitude, mais le sol influe. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup plus d'acidité, d'équilibre et plus de squelette, quelque part minéral peut-être sur le deuxième. On est sur quel type d'agriculture ? On est en conventionnel, on a une approche bio, on est sur ces vins-là ?
Alors, le type d'agriculture, conventionnel, bio, ce que vous voulez, c'est déjà très européen.
Oui, peut-être.
Et les labels ne sont pas les mêmes, donc en fait, voilà, faut un peu l'oublier. Alors, faut se remettre dans l'idée que là-bas, ce n'est pas les mêmes labels, les mêmes règles, donc ça ne veut rien dire pour nous, leur label.
D'accord, mais est-ce qu'ils arrosent ou pas ou...
Alors oui, c'est des...
Est-ce qu'ils désherbent ?
Mendoza, c'est irrigué.
Mendoza, c'est... Non, ils arrosent de chimie, pardon.
Alors, ce qu'ils traitent, oui, comme tous les vignobles du monde sont traités. Avec quoi ils traitent, ça va dépendre de tout à chacun. J'en ai visité tellement, je peux vous dire ces domaines-là que j'ai visité en plus, je peux vous dire... avec quoi ils traitaient, etc.
Encore une fois, c'est pas bien, pas bien. C'est juste. Oui, savoir
je n'ai aucune idée. Alors là, c'est deux domaines différents aussi, donc ça va jouer. Moi, j'avais la chance de le faire sur le même domaine, même vigneron, voilà, même date de récolte. Mais c'est vrai que oui, le sol joue également. Il y a d'autres choses qui jouent. Mais ce grand principe-là de plus d'acidité, plus de concentration en altitude est respecté dans tout ce qu'on a dégusté.
Mais il est flagrant, effectivement, là, à la dégustation, il y a beaucoup plus d'équilibre et de squelette et d'acidité sur le deuxième vin, il n'y a pas photo.
En tout cas, c'est très bon. Moi, je suis pas assez calé pour vraiment les comparer l'un et l'autre. Non, mais je peux parler du plaisir que j'ai à les boire. Là, il y a pas de problème. Mais voilà, je vais pas en rajouter sur la dégustation. Je propose que on.
Je pense que le deuxième, du coup, enfin, par rapport à même son caractère, il a plus de garde potentielle. On sent qu'il y a encore, il peut encore évoluer, qu'il a plus de tanins. Fondamentalement.
Entre la trame acide, effectivement, et...
C'est pour ça qu'il va en altitude.
C'est clair. Non, mais voilà, il a plus de potentiel de garde, en tout cas.
C'est une tendance mondiale. Ça, face au réchauffement climatique, on monte pour avoir plus de fraîcheur, pour avoir plus d'eau, également.
Sauf qu'ici, en France, les vignobles d'altitude, c'est la Savoie, autour de 600 mètres d'altitude, 800 mètres. Si on arrive à 1000, c'est waouh. Là-bas, 1000 mètres, c'est le départ, et il monte à 3000.
C'est quoi ton point culminant à Chinon?
300 mètres, quelque chose comme ça, 200, 300.
Après, c'est quoi les grands leviers? Donc, il y a la montée d'altitude, et puis il y a un deuxième grand levier par rapport au réchauffement climatique, il y en a sûrement d'autres, c'est le travail sur d'autres cépages. C'est-à-dire l'utilisation de cépages avec une concentration en acidité un peu plus forte.
Puis plus tardif,
forte, surtout. Oui, voilà, c'est ça, plus tardif en termes de maturité phénolique.
Nous, quand on classe par rapport à tout ce qu'on a vu, et bon, moi je le classe en trois choses, en deux gros leviers. Le premier levier, c'est le changement de localité. Il n'y a pas que l'altitude, il y a aller au sud. Enfin, pour eux, aller au sud, pour nous, aller au nord. Et aller sur les côtes, plus frais avec les océans. Et il y a le levier changement culturel. Et là, on englobe le changement de cépage, le changement de taille, le changement de mode de conduite, de clone. Parce que même avant de parler de cépage, on peut parler de clone, on peut parler de porte-greffe, on peut parler de sol, de terroir, sans même avoir à changer de cépage. Donc il y a ces deux actions qui sont deux leviers possibles dans l'adaptation au changement climatique. Tout en sachant qu'il faut quand même avoir en tête que c'est bien d'adapter, mais il faut quand même continuer à atténuer.
Alors... Je vous propose qu'on passe aussi maintenant sur le prochain voyage de l'Amérique du Sud, passant à la Méditerranée, parce que justement c'est ce contraste qui est intéressant. La Méditerranée, les problématiques sont différentes et en même temps les mêmes, c'est-à-dire le changement climatique. Je me tourne vers toi, Isor. Quelle est la trame, l'idée générale du voyage que vous préparez? Rappelle-nous les pays que vous allez visiter, que vous projetez de visiter, si évidemment les conditions sanitaires le permettent.
Ouais, alors ça a été assez périlleux sur les 6 derniers mois de savoir comment on allait construire ça.
Faisons comme si tout cela s'arrêtait. Et vous allez où ?
Nous, on veut aller plutôt sur les terroirs sud de l'Europe, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, sud et Grèce. Parce qu'on considère qu'il y a une richesse historique, culturelle, et aussi au niveau des cépages, comme disait Vincent, je pense qu'il y a une richesse à exploiter et à avoir très intéressante.
Et même traverser la Méditerranée.
et même, pourquoi pas, traverser la Méditerranée. Alors, on y pensait encore il y a un mois, là, on réfléchit au Maroc, à voir comment ça évolue, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi d'aller voir ailleurs.
Maroc, la Tunisie.
Ouais, surtout Maroc, nous, on se concentrait, d'accord, parce que c'est plus compliqué d'un point de vue logistique, mais... Donc là, mais pourquoi pas.
Là, vous savez ce que vous allez trouver. Vous êtes en train de prendre contact avec les vignerons, les domaines, les endroits que vous allez rencontrer, c'est ça?
Ouais, alors là, on fait tout un travail de démarchage, d'études. On se réserve aussi une partie où, en fait, on va découvrir sur le terrain tout ce qu'il y a, tout ce que le terroir a à nous offrir là-bas. C'est dur de, quand on a aussi notre vie à côté de césure. Voilà, on avait nos stages, nos travails. Mmh. On peut pas se mettre à 100% sur le projet dessus tout le temps, mais du coup on réalise des interviews avec des professionnels plutôt en France pour cerner un peu tous les impacts que peuvent avoir le changement climatique d'un point de vue européen propre au pays qu'on veut aller voir, notamment sur le sujet de l'irrigation, pour essayer d'arriver avec des bases un peu solides et construire nos entretiens, nos interviews avec les vignerons. Comme disait Vincent, on cherche aussi la diversité sur là où on va aller. On cherche à voir des chercheurs, des enseignants, des interprofessions, parce qu'il y a le système d'appellation quand même dans les pays où on compte aller qui est en place.
En Italie, bon courage, si j'ai bien compris, ouais. Les émissions qu'on avait fait dessus, sur la complexité du système des appellations, qui n'est pas toujours facile à...
Ouais, il y a aussi tout un travail à faire là-dessus sur comprendre un peu dans quelle filière on va aller, comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est pas toujours facile, et c'est aussi l'idée de notre projet de voir un peu comment fonctionne tout ça, parce qu'il y a aussi les leviers d'un point de vue technique, agronomique pur, mais il y a aussi, nous on pense, la partie voilà réglementaire, appellation, qu'est-ce qui est mis en place par les acteurs on va dire au-dessus pour faire face au changement climatique dans l'adaptation et l'atténuation. Donc on voudrait aussi s'intéresser à ces leviers-là, si possible.
Et la dimension administrative, voilà, et même à l'échelon européen, comment on vient en aide à ces domaines pour accompagner ces changements?
Alors pourquoi pas, ça serait encore pousser le projet un peu loin, peut-être qu'en 4 mois, en fait, 3, c'est pas assez.
C'est infini, ça.
Ouais, c'est infini, ouais. C'est
une pelote que tu tires, ouais. Et il y a des millions de questions qui se posent au fur et à mesure.
C'est passionnant, mais...
Et là, vous partez quand, alors?
Alors on prévoit de partir normalement dans 2 semaines et demie, le 6 avril. Là, on est en train de repousser plutôt au 9-10. On va aller chercher un van qui nous attend en Espagne pour être un peu libre d'un point de vue logistique.
Donc le premier vol, c'est l'Espagne?
Ouais, c'est ça. L'Espagne, on va essayer d'aller...
Alors, il n'y a pas de vol.
Non, il n'y a pas de vol.
Il n'y a pas d'avion.
D'accord.
On y va.
Vous y allez
en voie terrestre.
On y va en voiture.
Normalement.
Bah, le bon vieux convive, Volkswagen, c'est le moment de le sortir.
Et bah, c'est exactement ça, Volkswagen.
Bah,
il nous attend.
Il faut pas mettre les fleurs dessus, quand même.
Bah, des fleurs de vigne, des feuilles de vigne.
Première destination, quelle région?
Première destination, nous, on aimerait bien partir sur La Rioja et descendre l'Espagne. Alors après, on a aussi la question du Portugal. Là, actuellement, les frontières, ils sont en plein déconfinement. Donc, voir comment ça se passe. Et après, retourner sur Alentejo, Douro. Et puis, revenir ensuite sur le sud de l'Espagne pour passer en Italie, Sardaigne, Sicile. Puis, le sud de l'Italie pour passer ensuite en Grèce. Il y a toute une logistique de ferry qu'on a regardé un peu en amont. Mais ça va être beaucoup d'imprévus aussi, je pense.
Et au plus fort de l'été, au moment les plus chauds, vous serez où?
Bah, normalement, on prévoit en juillet...
Dans un bar à tapas.
Non, mais pour savoir aussi qu'on peut vous rejoindre, en fait.
On vous dira au courant.
Non, non, mais c'est plus, j'imagine que les vignobles andalous, par exemple, moi, c'est une grosse question que je me pose. Ils sont directement en danger à cause du réchauffement climatique, parce que selon les projections de l'INRA, en 2040 ou en 2050, il n'y en aura plus. Enfin, ça sera une zone désertique. Je me demande comment justement ils réagissent. Enfin, c'est pour ça que c'est un super projet, mais je me dis, en plein cagnard en Andalousie, ils font quoi, les gars?
C'est justement aussi nous l'intérêt de se dire qu'à cette région de l'année, on y sera pour voir nous-mêmes, parce que je pense que c'est dur de s'imaginer exactement commencer là-bas à cette période de l'année. Normalement, juillet, pour revenir sur la question d'où on sera, on espère la Grèce, Italie-Grèce, donc sur des terroirs assez chauds, et on verra donc à ce moment-là comment ça se passe, quoi.
Ils vont mettre des serres. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce qui se passe après, de ce que vous comptez produire? Alors, je sais que 2019, il y a déjà eu un travail de fait sur les productions. Donc peut-être, Vincent, nous expliquer un petit peu où tu en es sur ce que vous avez produit après votre voyage. Et puis, Isor, si vous êtes dans la continuité, est-ce que vous allez faire de différent?
Alors, il y a toute la partie professionnelle, mise en relation, dont on a déjà parlé. Et après, il y avait la partie ouverte à vraiment, alors même si cette partie est ouverte à tous, mais il faut vraiment avoir un petit background d'agronomie. Après, il y a la partie vraiment où tout le monde peut comprendre et même sans aucun prérequis. Nous, on a fait un film, du coup, et on va diffuser ce film. Alors, il aurait déjà dû être diffusé depuis un an, mais il y a une petite pandémie qui est passée par là. Et le but du jeu, c'est de le diffuser au maximum. Donc, on a des contacts aujourd'hui, pourquoi pas avec l'IFV, les vignerons indépendants, des syndicats d'appellation, pour montrer ce film. Et dans ce film, on va avoir donc, tous les leviers qui existent en Amérique du Sud, des gens qui ne sont pas d'accord sur les leviers, sur l'irrigation, sur ces questions dont on a parlé. Et le but du jeu, c'est de faire des petites conférences. Donc, ça va être un film d'une heure à 1h20 et qui sort là dans un mois. Et après, de faire une petite conférence où nous, on va pouvoir répondre aux questions des gens et essayer de susciter un peu un débat sur ces questions-là. Et ce n'est pas de donner une réponse en mode « oui, il faut irriguer, oui, faut pas irriguer, non, il ne faut pas irriguer ». Pour reprendre cet exemple-là, c'est vraiment de dire « voilà, vous voyez qu'à chaque question, la réponse est très complexe et qu'on ne peut pas donner une vérité générale ».
Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce superbe projet Red Wine. Et merci pour les vins. On va peut-être rappeler quels sont les vins qu'on a dégustés concrètement. Deux vins argentins, deux Malbec. Tu as les noms des domaines en tête ?
Alors, celui qui est en petite altitude, c'est Terrazas de los Andes, donc un vignoble français qui se trouve à Mendoza.
Pourquoi un vignoble français ?
C'est LVMH qui possède ce vignoble. D'accord. Et qui est géré par des Français. C'est le vignoble qui est en association avec Cheval des Andes. Donc c'est le cheval blanc d'Amérique latine et Terrazas, c'est le deuxième vin. Et le deuxième, c'est... je ne me souviens plus du nom du domaine.
Bon, on écrira ça sur le résumé de l'épisode. Ah, Patrice est allé chercher la bouteille. C'est des vins qu'on peut...
Si, c'est Zuccardi, voilà.
Zuccardi.
Il y a un vignoble d'origine italienne.
D'accord. C'est des vins qu'on peut trouver quand même ici en France ?
On commence à trouver des vins argentins, pas tous. Alors évidemment, Terrazas, forcément, vu que c'est un vignoble français, on arrive vraiment à le trouver, distribué par LVMH. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Trouver les petites pépites, c'est quand même très compliqué aujourd'hui.
Il faut aller sur place quand on pourra reprendre l'avion. Merci beaucoup Vincent Couli, merci Isor Cellier d'être venu nous présenter ce joli projet Red Wine dans la terre à bois. On va suivre vos aventures, on va être curieux de regarder ces vidéos au retour. Isor, on te souhaite un beau voyage. On
merci.
Est hyper jaloux tous autour de cette table, d'abord d'avoir ton âge, de pouvoir faire ce genre de projet, de partir la semaine prochaine en Espagne. Là je pense que voilà, on va tous pleurer.
Dans trois semaines.
C'est pareil. Mais voilà, on est ravis pour vous et franchement c'est chouette et c'est bluffant.
C'est rafraîchissant.
C'est rafraîchissant et on est content d'entendre que voilà, dans les écoles d'ingénieurs en agronomie aujourd'hui, ces questions-là se posent et sont abordées de cette façon. Ça donne un peu d'espoir pour la suite, pour la viticulture et puis pas seulement, hein, pour la vie quoi, dans son ensemble. Ça te fait sourire Bertrand ? Ça fait plaisir de te faire sourire.
Ah écoute. Non, mais moi j'ai suivi une formation en agroforesterie à AgroParisTech, donc je sais qu'ils sont, ils sont un peu sur le pont.
À propos d'un autre projet dont on va reparler un de ces jours ensemble, je crois.
J'espère.
Hein, une histoire de vin dans une région, une nouvelle région du vin, en métropole cette fois. Merci à tous. On se retrouve pour un prochain épisode de La Terre à Boire dans quelques semaines. Continuez de nous suivre, c'est gentil. Continuez de nous écouter et de suivre les réseaux sociaux. À bientôt. Bye bye bye.
Merci.
Salut à tous.
Merci.
Ciao.
À bientôt.